Bonjour à tous. Alors Sam, je vais peut-être répondre en partie à ta question de pourquoi on mange le corps de Christ. Enfin, je pense qu'en tout cas, dans la deuxième partie du message, on va pouvoir répondre à éclairer un peu cette partie-là. Comment lier la gerbe? C'est l'expression qu'on utilise là depuis quelques semaines dans l'église à Chambéry pour nous pousser à discerner. Qu'est-ce que l'on doit faire ensemble, et pas seulement des individus les uns côté des autres, mais qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour nourrir ceux qui sont autour de nous? Dans ce temps de discernement collectif, il y a eu le fait de marquer sur des post-it nos dons, ce que l'on sait faire, et c'est quelque chose qui va permettre, qui va donner une indication sur la forme de comment va s'exprimer ce que Dieu nous demande de faire ensemble. La semaine dernière, Thomas Poète, de passage de chez nous, nous a alerté pourtant sur l'impasse qui serait la nôtre si on restait juste à cette étape-là. Il nous a rappelé que pour répondre à un problème, pour répondre au problème de la mer morte, il ne suffit pas de regarder à nos propres ressources, nos propres capacités, et qu'on essaye d'élaborer un plan. La solution à la mort, la solution, c'est que Dieu soit au centre. Pour que sa vie coule en nous et que nous puissions être du coup en bénédiction autour de nous. Dans la continuité de cette démarche de discernement, nous allons poursuivre la réflexion ce matin sur qu'est-ce que cela signifie d'avoir Dieu au centre. Et pour cela, je vous propose de regarder plus précisément quels sont les domaines où Jésus demande des comptes à son Église. Parce qu'en sachant ce sur quoi nous devons rendre compte, ça nous donne comme une boussole, une indication pour distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas. Dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé sur des chantiers de grande envergure et parfois sur des chantiers de grande taille comme cela, on ne sait plus où donner de la tête. On est submergé parce qu'il y a plein de problèmes à résoudre, il y a plein de sollicitations en même temps et des fois, on ne sait pas forcément par quelle boule prendre. On ne sait pas qu'est-ce que l'on doit faire. Ce qui m'a aidé dans ces moments-là, c'était de me rappeler à qui je dois rendre des comptes et sur quoi. Et en me rappelant ça m'aide à faire le tri, à dire, OK, telle sollicitation, je ne vais pas donner suite, ce n'est pas l'important. Par contre, je vais me concentrer sur ça. Ou ça me rappelle aussi que peut-être il y a tel aspect que j'ai complètement mis de côté, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je l'intègre aussi dans mon périmètre. Pour cela, je vous propose ce matin, du coup, de méditer ensemble les lettres aux sept églises dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Et dans ce chapitre, dans ces lettres, on voit que Jésus pose un jugement sur l'état dans lequel se trouvent les églises. Il leur dit ce qui va bien, il leur dit ce qui doit impérativement changer. Et dans ces lettres, on peut voir les critères que Jésus utilise pour dire si une église est en bonne santé ou si elle est en mauvaise santé. On va voir aussi ensemble la ressource que Jésus donne pour vivre à la hauteur de ces critères. Et enfin, on va voir aussi quel est l'enjeu, au final, qu'une église ne doit pas perdre de vue pour rester par essence une église de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu dis que ceux que tu aimes, tu les reprends. Merci parce que on n'est pas à chaque fois, tu n'es pas là juste à dire tout est bon ou tout est mauvais, mais tu sais dire ce qui va bien et puis en même temps dire il y a telle chose qui a besoin d'être corrigée, rectifiée. Et nous voulons être avec ce cœur, Seigneur, sachant que tu nous aimes et que tu veux nous parler avec amour et vérité, Seigneur, ce matin encore. Alors fais ton œuvre. Amen. Alors je ne vais pas lire les sept lettres aux sept des églises, je vais vous en lire que deux pour pas vous endormir. Mais on va regarder donc la première et la quatrième église. Apocalypse 2, à partir du verset 1. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept portes lampes d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Quatrième église. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont pas jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si l'on fait un bref survol des sept églises qu'on n'a pas lues, on voit que l'église d'Éphèse, c'est une église finalement qui fait tout correctement. Une église où il y a presque zéro reproche à faire, il y a juste une seule chose qui manque, c'est l'amour premier. Les autres églises, on va voir que Smyrne, en apparence, est pauvre et persécutée. Jésus lui dit qu'elle est en fait riche, et l'encourage à persévérer jusqu'à la mort, car elle va vivre encore des détresses. Pergame, c'est une église fidèle à Dieu, pour autant, elle laisse des personnes enseigner le compromis. Jésus la met en garde, si elle ne corrige pas ces personnes, c'est lui qui va s'en charger lui-même. Thyatire, là aussi c'est une église avec beaucoup de qualités et en croissance, mais qui laisse Jézabel, comme on l'a vu, égarée du monde dans l'erreur, sous couvert d'une spiritualité supérieure. Sardes, c'est une église qui a une très bonne réputation et pourtant Jésus la voit comme morte. Jésus la reprend pour affermir le peu qui lui reste de véritable. Philadelphia est une église qui a peu de puissance mais qui est fidèle à la parole de Christ. Jésus l'encourage à continuer ce qu'elle fait déjà très bien. Et Laodicée, c'est une église qui est satisfaisante. Elle se croit riche, suffisante, mais Jésus lui dit qu'elle se trompe totalement. Elle est nue, aveugle et pauvre. Elle n'est ni froide, ni bouillante. Jésus va la vomir si elle ne change pas. Dans ce survol général, on voit que Jésus en fait évoque à presque à chaque fois les mêmes critères pour dire si une église est en bonne santé ou en mauvaise santé. Il va regarder le cœur, en parlant de premier amour, en parlant de se passionner. Il va regarder les œuvres, il va dire « je connais tes œuvres » et ça revient régulièrement. Il va regarder aussi la doctrine. Il parle de fidélité à sa parole, ou au contraire, il reproche très sévèrement les compromis doctrinaux qui engendrent des comportements inadmissibles. Je vous invite du coup à regarder un peu plus en détail ces trois critères. Le cœur comme aimer Dieu plus que tout et aimer notre prochain. L'église d'Éphèse, comme je disais, c'est une église qui arrive à tout faire bien. Si on lit que la première partie du verset, tout se passe bien. Elle arrive à avoir la bonne forme, elle sait bien faire les choses, elle arrive bien à avoir les bonnes œuvres, la bonne implication, elle a les bonnes prédications, il y a zéro problème sur l'enseignement. Et pour cause, elle a été quand même fondée par Paul. Il y a eu Timothée qui a été pasteur dans cette église. Et en plus, vers la fin, il y a aussi eu l'apôtre Jean. Donc il y a eu quand même un terrain riche et favorable pour cette église. Et on voit qu'elle a bien su vivre dans la continuité de ça. Mais on voit qu'il y a la forme, mais qu'il manque le fond. Ça pose la question de la transmission générationnelle, en fait. Ça pose la question de, est-ce qu'on arrive à transmettre juste le « voici ce qu'on fait » ou est-ce qu'on arrive aussi à transmettre le sens qu'il y a derrière, le pourquoi on le fait. Donner du sens, je trouve pour nous, en tant qu'église locale de Chambéry, qui va sur sa peut-être troisième génération, c'est intéressant de se poser cette question, de se dire, il y aura des dates où il y aura les jeunes, on va vous laisser la place pour faire le culte du jeune, et là on peut vous apprendre par mimétisme le format, mais est-ce qu'on arrive à vous transmettre le sens de pourquoi on fait ça ? Parce que la forme, avec le temps, va devoir s'adapter. La vie d'aujourd'hui n'est pas la même vie autour de nous que celle d'il y a 40 ans. Les enjeux, les défis ne sont pas les mêmes. Et il est bon d'apprendre par mimétisme, mais il est aussi bon de se rappeler de pourquoi on fait les choses. Ça, c'est vrai en tant que transmission, et je trouve ça finalement libérateur, parce que pour des personnes, on peut venir au groupe de jeunes, on peut venir à d'autres, dire ben voilà ce que moi j'ai vécu, sans avoir la contrainte de se dire « Ah, il faut qu'il vive exactement la même chose que moi. » Non, il ne va pas vivre la même chose que moi. Par contre, je peux lui transmettre le sens. Je peux lui, au travers de mon vécu, je peux dire « Voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. » Et là, il va en tenir le sens, en capter le sens, et ensuite se dire « Ah ben, moi, je vais pouvoir vivre la même chose avec Dieu dans ma vie de tous les jours. » Donc, je trouve que c'est libérateur pour la transmission générationnelle. Mais je pense qu'il faut aussi, pour nous, dans la vie de tous les jours, et pas simplement quand on s'adresse aux jeunes, mais à nous, qu'on se pose la question de pourquoi on fait les choses. On peut se poser la question de pourquoi on fait les présidences comme on les fait, pourquoi on prend la Sainte-Seine, pourquoi on se rassemble les dimanches. Et Dieu a bien fait les choses, parce qu'en général, on a des ados dans notre vie de parents qui viennent pour nous poser toutes ces questions du pourquoi, et nous ramener à dire mais pourquoi on fait les choses. Et ça peut être utile pour nous de se poser la question de pourquoi on fait les choses afin d'arriver à transmettre le sens derrière. Il y a une transmission générationnelle et le danger, si on ne focalise que sur la forme, c'est que ça devienne des... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ici. Ah oui, mais on a toujours fait comme ça. Ça, c'est typique où on transmet la forme et pas le fond. C'est la forme devient quelque chose d'immuable qu'on n'a même pas le droit de remettre en question parce qu'on a toujours fait comme ça. Le problème, c'est que du coup, ça devient oppressant. René Girard, qui est un philosophe et en partie aussi théologien, a écrit un bouquin qui s'appelle « Le bouc émissaire ». Il dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'en tant qu'humain, il l'analyse de la manière suivante, il dit que quand on se constitue en groupe, pour former un groupe, en fait, à chaque fois, on le fait en trouvant des points communs, mais aussi en trouvant un bouc émissaire sur qui on va pouvoir dire « lui, il n'est pas comme nous ». Lui, il va l'exprimer comme ça, il va dire « il y a comme une... pour pouvoir être ensemble et qu'il n'y ait pas de violence entre nous, on va déverser notre violence vis-à-vis de celui qui n'est pas comme nous ». Et naturellement, on pourrait avoir cette tendance-là, de dire en tant qu'Église, voilà notre forme, voilà comment nous on fait, et de mettre à part ou de montrer du doigt ceux qui ne font pas comme nous. On peut facilement dire, faire la différence entre nous on est les chrétiens et puis il y a ceux du dehors. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est justement que si on est ensemble, c'est pas on n'est pas ensemble parce qu'on rejette d'autres personnes. On est ensemble parce que Jésus, lui, a été rejeté à notre place. Et du coup, on est libéré de cette dynamique-là et on est libéré de dire, on n'a pas à imposer aux autres de dire, faut que tu aies les mêmes codes que nous pour faire partie de notre Église. On est libéré de ça et on peut dire simplement, ben, viens tel que tu es et ensemble, on va apprendre aussi à s'aimer parce que Jésus t'a aimé, parce que Jésus s'intéresse à toi. Alors moi, je veux aussi m'intéresser à toi, même si, de prime abord, tu me choques, tu me déranges. Donc, pas de culture du bouc émissaire. Et dernier point sur le cœur, c'est que aimer Dieu, c'est aussi aimer Dieu pour oser mourir. Il est dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Alors, on n'en est pas pour l'instant à vivre comme les chrétiens persécutés dans certaines parties du monde où on risque vraiment notre mort. Pour autant, combien de fois on peut des fois se taire parce qu'on a peur de perdre quelque chose? Et là, est-ce que l'amour pour Dieu doit nous pousser des fois à dire, lorsqu'il y a des situations qui ont besoin d'être dites, quitte à perdre l'approbation de ceux qui sont en face de nous? Aimer Dieu va nous pousser à oser dénoncer certaines situations, quitte à perdre quelque chose dans l'histoire. Et je trouvais ça intéressant de se poser la question, qu'est-ce que l'on a perdu à cause de Dieu? Parce que si on n'a rien perdu à cause de Dieu, il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'à chaque fois on ménage un peu tout pour satisfaire tout le monde? Le cœur. Les œuvres, c'est pas seulement des projets d'action sociale, c'est pas seulement des projets que l'on peut mener. Les œuvres, dans le sens biblique du terme, c'est déjà des œuvres de justice. C'est pratiquer le bien et rejeter le mal. Et des fois, ces œuvres, on peut... Dans les passages de l'Apocalypse, il est parlé, les œuvres sont des fois bonnes, des fois elles sont mauvaises, des fois elles sont des œuvres mortes. Et on voit qu'on peut faire la même chose, deux personnes peuvent faire la même chose, mais pas avec la même intention et pas avec la même valeur. Ce que nous dit les lettres aux sept églises, c'est est-ce que les œuvres, les actions que l'on porte, est-ce qu'elles parlent plus de nous ou est-ce qu'elles parlent plutôt, ou est-ce qu'elles disent quelque chose sur Dieu? Est-ce que c'est nous qu'elles mettent en avant ou alors est-ce qu'elles permettent aux gens de se dire « Non, mais là, il y a vraiment quelqu'un derrière ça. » Laurent avait utilisé une histoire qui, je trouve, illustre bien ça. C'était la personne qui faisait du bien autour d'elle et que quelqu'un a peint son portrait sur le mur. Et que lui, il a dit non, il l'a effacé en disant « Non, ces œuvres ne doivent pas parler sur moi, ces œuvres doivent parler sur Christ. » Est-ce que nos œuvres disent quelque chose sur Dieu? Là aussi, si on réfléchit à comment lier la gerbe à notre identité de groupe, les œuvres peuvent être aussi une tension. Parce qu'on va vouloir, des fois, on pourrait se dire « Ah, il faut qu'on ait un projet en commun pour rassembler tout le monde. » Dans le passé, il y a eu le marché de Noël, pour ceux qui connaissent, qui a su mobiliser beaucoup de personnes dans l'Église, et c'est tout un projet sur toute l'année, je ne l'ai pas vécu, mais de ce qu'on m'a raconté, qui avait l'air important. Et ça, c'est des chouettes projets. Mais là, dans le passage d'Apocalypse, qui vient nous libérer, c'est nous dire, ce n'est pas parce qu'on a un projet comme ça qu'on va être un groupe. On peut en avoir, c'est bien, mais quand on n'en a pas, on reste quand même l'Église de Dieu. Et donc, ça vient faire tomber le mythe ou la pression, des fois, de dire « il faut absolument un projet et il faut que tout le monde s'engage dedans et puis ceux qui ne s'engagent pas sont mis de côté. » Non, il faut qu'il y ait des projets qui peuvent éclore, mais c'est pas ça qui va faire qu'on ait un groupe ensemble. C'est pas ça qui va faire qu'on ait une église ensemble. Et je trouvais ça intéressant aussi, Jacques Ellul, dans Théologie et technique, qui nous rappelle que lui dit qu'on vit dans une culture, surtout la culture occidentale, où on met beaucoup en avant la productivité. Et il va parler lui-même de... Il va montrer, je trouve ça intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il va dire que, sans s'en rendre compte, en fait, on dit que le fait d'être efficace est une fin en soi. Le fait d'être efficace dans le monde du travail, on ne le remet pas en question. C'est une justification suffisante pour dire il faut faire mieux. Combien de fois, des fois, dans l'Église, on peut y avoir cette tension entre ceux qui disent « Ah, on n'est pas assez efficace, il faut qu'on soit un peu plus efficace, il faut qu'on change notre façon de fonctionner. » Et puis d'autres qui vont dire « Non, non, il faut surtout préserver les personnes et du coup, on ne va rien bouger. » Et je trouve ça intéressant que l'un et l'autre ont tort et qu'on ne doit ni être immobile pour juste préserver les personnes, mais ni être non plus dans le productivisme en disant « On peut défoncer tout le monde juste parce qu'il faut être plus efficace. » Mais on a un appel à pouvoir parler avec vérité en discernant bah, s'il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, autant leur dire de s'asseoir et d'être là où elles doivent être. Mais en même temps, on doit savoir le faire pas de manière forte et juste parce qu'il faut être efficace. Il faut savoir le faire avec la relation, correctement. Les œuvres ne doivent pas se faire au détriment des relations, mais les relations ne doivent pas non plus bloquer les œuvres que Dieu a prévues que l'on doit faire. Et on doit donc tous être même passionnés pour de riches et de bonnes œuvres. Si l'on regarde la doctrine, ce n'est pas simplement l'enseignement du dimanche matin, ça ne va pas être simplement ce qui va être... c'est pas l'information que la théologie, la doctrine, c'est ce qui est compris, ce qui est cru et ce qui est vécu dans la vie de tous les jours. Là, dans les textes de l'Apocalypse, on voit qu'il fait mention des méchants, il fait mention des Nicolaïtes, de Balaam, de Jézabel. Qu'est-ce qui représente un peu tous ces personnages ? Les méchants et puis les Nicolaïtes représentent peut-être ceux qui vont dire on peut faire ce qu'on veut. Dieu est plein de grâce, mais dans notre vie de tous les jours, on peut agir comme on veut, et qui vont justifier facilement le fait de vivre d'une manière débridée. Et ils vont avoir des raisonnements pour prouver cela. Balaam, ça va être l'exemple type de celui qui va tout faire bien, correctement, comme un chrétien, mais au final, il ne va pas le faire pour servir les autres, il va le faire pour se servir soi. Balaam, c'était un prophète qui a prophétisé sur Israël, qui a dit des bonnes choses sur Israël, Dieu s'en est servi, mais dans la Bible, on voit à d'autres passages que Dieu dénonce son approche. Il l'a fait pour l'appât du gain. Il l'a fait pour se servir lui-même. Et je trouve ça intéressant, c'est que dans les lettres d'Apocalypse, il est dit de faire attention à l'influence de personnes comme ça. Ceux qui se servent au lieu de servir les autres, parce qu'on peut se faire embarquer avec eux. Alors, avant de pointer du doigt, je pense à un tel ou comme ça, mais ça doit aussi nous parler sur notre propre cœur à nous. Attention dans nos vies, dans ces zones où on se dit, ah là, je ne suis pas en train de servir les autres, je suis en train de me servir moi-même. Et troisièmement, je pense aussi à Jézabel, qui, dans ce passage-là, c'est intéressant, c'est qu'il est fait mention de Jézabel, puis il est fait mention de prophétesse. Jézabel, c'est le type de personne qui, dans l'Ancien Testament, a fait un mélange avec des croyances autres que la croyance du peuple juif, mais qui a fait un mélange de ça avec les croyances du peuple juif, en l'occurrence du peuple d'Israël, du royaume du Nord. Et donc, à la fois, ça représente le mélange, on prend un peu de tout ce qu'il y a de choses ambiantes et on fait un gros mélange. Mais aussi, la notion de prophétesse, ça montre qu'il y a un peu une excuse de la spiritualité. Sous couvert d'une spiritualité supérieure, on va la laisser faire. Et je trouve ça intéressant pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des courants entre ceux qui disent c'est la Bible et pas les dons charismatiques, premièrement, et puis d'autres qui vont dire c'est les dons charismatiques. Et les deux ont tort, on a besoin des deux. Le Saint-Esprit qui donne des dons charismatiques, c'est le même Saint-Esprit qui a donné à certains écrivains de la Bible de d'écrire d'une manière avec de la littérature, avec de la recherche des mots qui est complètement impressionnante. Enfin, le Dieu est le Dieu à la fois de la raison et du surnaturel. Pour autant, des fois, je trouve ça intéressant, c'est que quand, dans l'histoire de l'Église, on voit qu'on commence un peu à s'ouvrir à des choses de l'esprit et qu'on commence à se laisser surprendre par Dieu, des fois, ça peut dévier. Ça peut dévier parce que sous couvert de l'esprit, on laisse tout passer. Et là, ce passage-là nous rappelle que, non, un prophète type enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent nous surprendre de la part de Dieu, mais il faut savoir aussi corriger quand il y a des erreurs. Dans le Deutéronome, pour reconnaître un vrai d'un faux prophète, il faut non seulement que la chose se réalise, mais même si ça se réalise, ce qui caractérise le vrai du faux prophète, c'est de dire, est-ce que ça nous approche de Dieu ou est-ce que ça nous en éloigne ? Quand, sous couvert de spiritualité, on commence à justifier des comportements qui, par ailleurs, dans la Bible, peuvent être éprouvés, là, il faut se poser des questions. Là, il faut savoir dire, OK, là, on va trop loin. Il y a peut-être des bonnes choses à garder, mais voilà, il faut savoir faire attention à notre utilisation de la spiritualité. Et donc, il y a ces mises en garde, mais il y a aussi donc, ces encouragements à utiliser la saine correction. On le voit que Jésus le fait dans les lettres au travers des églises, et on le voit qu'on doit le pratiquer, le fait de se corriger, de se reprendre. Si vous êtes comme moi, je vais avoir tendance à ne rien faire tant que ce n'est pas tout bien fait correctement. Ne serait-ce que pour préparer la prédication, des fois ça va me prendre des heures juste pour écrire l'introduction, parce que je voudrais que ça sorte directement, correctement. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est que je l'écris une première fois, et il y a du bon, et puis il y a du mauvais dans ce que j'écris, et il faut repasser, il faut recorriger. L'invitation derrière ça, c'est de se dire, OK, en tant qu'Église, on ne va pas rester à ne rien faire tant qu'on n'a pas tout bien compris correctement. Ça, c'est, on va éviter ça. On ne va pas non plus se mettre à l'action et dire on peut faire tout n'importe comment. Je prends un exemple. Laurent a fait un super... moi, je suis impressionné par le fait qu'il arrive à motiver les uns et les autres. Le fait qu'on a pu faire le calendrier de l'Avent. C'est un super exemple de dire, OK, on ne reste pas là à attendre d'avoir les bonnes prédications de bien écrites de tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte et puis il en sort quelque chose qui est édifiant. Ça, c'est chouette. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse continuer ce genre d'initiative, mais aussi avoir la place et l'espace pour corriger quand il y a besoin de corriger des choses qui sont fausses. Il faut qu'il y ait cet espace voilà, de liberté d'expression de chacun, et en même temps, on est là pour apprendre, on est là pour se corriger les uns les autres, et de veiller. On a une responsabilité ensemble à veiller quel message on porte. Si on lit certains encouragements dans le calendrier de l'Avent, il y a certains encouragements, ce n'est pas de l'Évangile, c'est juste « soyez des bonnes personnes ». Et nous, on doit veiller les uns aux autres à dire, OK, c'est pas juste, on ne doit pas juste s'encourager à être des bonnes personnes. Nous, on a un message qui est l'Évangile, qui est celui de Jésus-Christ, que l'on doit comprendre, vivre et retransmettre. Et on a du coup un devoir de ne pas dévier de la parole de Christ. Et dernier point sur la doctrine, je trouve que, en parlant de compromis, ça parle des questions éthiques. Comment on se comporte tous les jours? Je trouve ça chouette qu'il y ait eu des formations, par exemple, sur la fin de vie à Lyon l'année dernière, qu'on se pose ce genre de questions. Et je pense qu'il faut le faire davantage. Les questions éthiques, clairement, ça va être quoi pour notre, enfin, j'ai envie de dire pour la prochaine génération, mais non, dès à présent, ça va être la question de la transidentité, la question de l'homosexualité, quoi. Toutes ces questions-là de la culture autour de nous qui change, qui fait pression sur les référentiels qui changent. Nous, on a aussi on peut pas juste dire c'est pas bien et puis sans expliquer pourquoi, sans en faire un tabou, le faire que finalement on n'en parle pas entre nous parce qu'on sait pas comment l'aborder. On a besoin de faire face à ces challenges clairement qui nous dépassent. On n'arrive pas de prime abord toujours à être à la fois plein d'amour et à la fois plein de vérité. Ces choses nous dépassent, mais on a besoin vraiment de l'aide de Dieu pour dire mais comment faire face à ces défis éthiques ? Comment rester l'Église de Dieu dans ce monde-là, autour de nous ? Parce que si on se dit, pour l'instant, on va continuer à faire comme on a fait il y a 40 ans, dans les 40 prochaines années, ça ne marchera plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut que c'est open bar, ça ne veut pas dire qu'il faut changer notre curseur en fonction du monde autour de nous. Mais on doit se poser, on doit se faire face à ces challenges et de voir comment Jésus veut qu'on y réponde de manière pertinente. Je vous ai passé tous les critères et des fois, ça peut être décourageant. En tant que parent, quand je vois mes enfants qui ont un comportement qui est pas correct, que j'essaye de les corriger et que ça marche pas parce que j'essaye de le faire gentiment, j'essaye la manière forte, mais les deux ne marchent pas. Des fois, ça peut être décourageant et je peux baisser les bras. Et donc, je vais peut-être des fois même laisser Cécile gérer les enfants en cas de crise et prendre du recul. Et dans ces moments-là, le Seigneur, des fois, me reprend. Il me reprend en me rappelant qu'il a repris Samuel en disant qu'il n'avait pas joué son rôle de parent vis-à-vis de ses fils. Il avait repris aussi. On voit aussi dans la lecture de la Bible que David, le roi David, avait aussi subi les conséquences de sa négligence. Et donc voilà, ça peut me remotiver en disant « Ok, j'ai quand même des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu dans mon rôle de parent. Donc même si je n'y arrive pas, je me mets encore à persévérer. » Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas me dire « Ok, je vais réessayer un peu plus et un peu mieux. » C'est que je vais dire « Ok, moi, je n'y arrive pas, mais montre-moi une nouvelle manière de faire. » Et c'est là que Jésus se donne en tant que ressource. C'est là où on va comprendre la Sainte Cène, parce que pour changer, Dieu ne nous demande pas de puiser à l'intérieur de nous. Ça, puiser à l'intérieur de nous, c'est de l'humanisme. C'est dire, soyez des bonnes personnes, soyez gentils, ne faites pas le mal, comportez-vous bien. Voilà. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est je reconnais que j'y arrive pas. Et je me tourne vers Dieu pour lui dire, toi, viens changer mon cœur, parce que de moi-même, c'est quand même pourri à l'intérieur. Et ensuite, on se met en action en comptant sur lui. Parce que si on dit juste, ok, c'est pas grave et Dieu va s'en occuper et qu'on reste comme ça, ça s'appelle aussi du légalisme, du laxisme. On laisse tout faire et il se passe n'importe quoi. Non, l'évangile, c'est, il y a des critères, Dieu ne change pas ses critères, mais par contre, on peut faire appel à lui pour changer. Et c'est là où on trouve, dans les lettres aux sept églises, chaque lettre commence par quelque chose qui dit, où Jésus se présente. Il va dire, moi, je suis. Et il va dire, voilà qui je suis. Et à la fin, il va faire une promesse en disant, je donne. Et c'est en s'appuyant sur qui Jésus est et ce qu'il nous donne que l'on va pouvoir oser avoir un comportement nouveau dans certaines situations. Quelques exemples. Jésus va dire qu'il tient les sept étoiles et les sept chandeliers, et il va promettre qu'il va donner à manger de l'arbre de la vie. Là, on voit que du coup, Jésus va dire à l'église d'Éphèse, ne sois pas juste en mode survie, mais tu peux vivre pleinement la vie parce que moi, je tiens les églises. Et moi, je vais te donner te donner à manger de l'arbre de vie. Donc le premier amour, le sens de pourquoi on fait les choses, moi je peux te le donner. Un autre aussi assez révélateur pour Smyrne, c'est Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui est ressuscité et qu'il va donner la couronne de vie, alors on n'a plus à craindre la seconde mort. Et pour Smyrne, c'était important parce qu'elle avait peur peut-être de se faire rejeter par les gens autour d'elle. Mais Jésus va lui dire, celui qui n'a pas peur de mourir aujourd'hui, celui qui n'a pas peur de perdre la communion aujourd'hui avec ceux autour de nous, eh ben lui, il est assuré de ne pas mourir demain de la seconde mort. Voilà. Et si on regarde globalement, on voit que Jésus nous encourage sur la base de qui il est à vivre pleinement, à échapper à la seconde mort, à connaître Dieu, à régner avec autorité, à savoir utiliser l'autorité de manière saine. Quand on peut se dire, ben soit on tombe dans les abus d'autorité, soit on ne fait rien, ben on peut dire, Jésus, toi tu dis que tu as l'épée à double tranchant. Alors apprends-nous à savoir dire les choses correctement quand il le faut, à savoir manier correctement la correction quand il y en a besoin, sans tomber dans l'abus d'autorité, sans tomber non plus dans on ne dit rien, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dieu nous encourage aussi en disant à Philadelphie, il dit que Jésus est le saint, le vrai, la clé de David qui ouvre et ferme les portes, et il va promettre que l'Église va être une colonne dans le temple où Jésus va inscrire le nom de Dieu, va inscrire le nom de la Jérusalem céleste, va inscrire son propre nom sur cette colonne, sur l'Église. Ça nous parle sur le fait que l'Église de Philadelphie pouvait être persécutée par ceux qui se disaient être le peuple de Dieu, parce qu'ils avaient les codes extérieurs. Et Jésus va leur dire non, le vrai peuple de Dieu, ce n'est pas ceux qui savent copier les rites que j'ai transmis il y a 2000 ans. Ceux qui sont le vrai peuple de Dieu, c'est ceux qui sont attachés à moi. Et donc sur la Sainte Cène, c'est là où je trouve que ça prend tout son sens. C'est que Jésus se donne à nous et nous invite à puiser en lui, à manger de lui pour pouvoir vivre à la hauteur de la vie, de la nouvelle vie qu'il nous donne. Dans notre vie de tous les jours et dans notre vie d'église, pour vivre à la hauteur de son appel, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus. Nous avons besoin de dire, moi j'y arrive pas, mais toi tu peux le faire. Et je viens manger de qui tu es, je viens me nourrir auprès de toi pour y arriver. Pour finir, l'enjeu d'être une église, comme c'est évoqué dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, souvent, dans les lettres, il y a marqué « au vainqueur ». Et il faut vaincre, l'enjeu c'est de vaincre. Mais vaincre, ça veut dire quoi ? Dans Apocalypse 12, verset 11, il y a la clé à cette réponse. En fait, tout l'Apocalypse vient répondre aux lettres des sept églises pour dire comment faire pour vaincre. Et le verset 11 du chapitre 12 dit « Mais eux, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. » Et là-dessus, ça nous parle sur le fait que vaincre, pour rester vraiment une église vraiment véritable de Jésus-Christ, en fait, c'est celle du témoignage. Est-ce qu'on rend témoignage de Jésus ? Autrement dit, on a des fois, et encore récemment, je pouvais dire, l'église de Chambéry est riche de chacun d'entre nous. Riche, quand je vois les œuvres sociales qu'on fait, quand je vois le cœur qu'il y a à servir, et c'est vrai, c'est beau, mais en fait, on n'est pas riche de cela, parce que s'il n'y a que ça, au bout d'un moment, on perd notre valeur. On est riche de cela tant qu'au final, derrière, on est riche de Christ. Ce qu'on a à donner autour de nous, ce n'est pas simplement de faire du bien. Ce qu'on a à donner qui va véritablement nourrir, c'est de pointer vers Christ. Et d'être comme cela, d'avoir cet enjeu du témoignage, de rester à la fois attaché à Jésus et de rester un témoin de lui. Donc, on voit que ça va nous éviter de tomber dans l'écueil de nous faire une renommée, de nous dire « Ah, il faut qu'on soit reconnu dans le bassin chambérien ». Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, tant mieux s'il y a de la reconnaissance, tant mieux s'il y a de l'opposition. Mais le but, ce n'est pas ça. Notre but, c'est de rester fidèle à Jésus-Christ et de nourrir les autres, non pas avec juste nos bonnes actions, mais de derrière ces bonnes actions, que ça puisse pointer, amener à Christ. La nourriture que nous pouvons offrir, ce n'est pas nos bonnes œuvres, c'est Christ lui-même. Comment lier la gerbe ? Comment nourrir ceux qui sont autour de nous ? Eh bien, en nous rappelant que nous devons rendre des comptes à Jésus sur notre cœur, sur nos œuvres et sur notre doctrine. Nous ne pouvons pas y arriver sans nous nourrir nous-mêmes de Jésus. Et l'enjeu, c'est celui du témoignage. En prochain pas, je vous invite déjà à titre individuel de se dire si tu te trouves, si tu te sens affamé, si tu prends conscience que je suis pas à la hauteur dans plein de domaines, c'est pas une fin, c'est pas une fatalité, au contraire. Et l'invitation de l'Évangile, c'est pas de faire mieux, plus fort, c'est au contraire, c'est de dire viens tel que tu es, viens à Dieu, expose-toi à lui. Peut-être qu'il y a besoin juste de réouvrir sa Bible, de lire un psaume, de pas forcément de s'engager en disant « je vais faire le plan de la Bible de toute l'année » et puis au bout d'une semaine, on a déjà échoué, mais ne serait-ce juste s'exposer à Dieu, lire sa parole, de passer du temps avec d'autres chrétiens pour dire « mais au fait, qui est Dieu ? J'ai besoin de m'exposer à lui, m'exposer à sa vie pour être de nouveau stimulé. » Ça, c'est à titre individuel. Et collectivement, je trouve que dans nos... Franchement, je suis hyper reconnaissante de l'église de Chambéry et je suis vraiment reconnaissante de ce que Dieu nous fait vivre ici. Mais je pense qu'il est intéressant de se rappeler qu'on a aussi des angles morts et que Dieu nous appelle à veiller sur ces angles morts et dire, ah tiens, là, il y a des choses qu'on laisse de côté, il faut qu'on y prenne garde et qu'on y travaille avec l'aide de Dieu. Je pense que un risque qui pourrait nous menacer, c'est la satisfaction. On pourrait se satisfaire d'être une église riche financièrement, riche de personnes bourrées de talents, riche de personnes avec un super cœur, et se satisfaire de cela. Et de se dire, on pourrait aussi avoir la démarche de, le fait d'avoir un programme en tant qu'église et tout ça, c'est bien, c'est beau, mais ça c'est la lubie des pasteurs qui passent, qui veulent un peu... faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre nous, mais au final, on connaît la musique, il ne va rien se passer, et puis, de tous les cas, nous, on est déjà actifs. Ça serait rester un peu assis sur sa chaise et se contenter de chacun mène sa vie avec Dieu, là où il peut, comme il veut. Mais non, il y a un vrai enjeu de vivre quelque chose aussi collectivement. Et pour autant, on a vu que, aussi collectivement, ça serait... une utopie de se dire il faut un projet phare et tout va régler, et ça va régler tout. Donc nous devons être tous impliqués intentionnellement pour bâtir ensemble la même chose, cette église fidèle de Jésus-Christ à Jésus-Christ. Une église qui aime Dieu et son prochain, une église qui pratique les œuvres de Dieu, une église qui veille sur sa doctrine pour pouvoir nourrir autour de nous. La seule nourriture qui est véritable, c'est Jésus-Christ. Je vous invite à... Je ne vais pas prier pour finir, mais je vais vous inviter à prier, à laisser place à comment répondre à tout cela en tant qu'Église. Et ensuite, les musiciens vont nous emmener à avoir une réponse aussi collective par le chant.